Ouvrir nos Bibles, Romains chapitre 2, bien sûr nous sommes là depuis le début de l'année dans cette série d'études de Romains, et depuis le milieu du chapitre 1, et là jusqu'à la fin de ce chapitre, eh bien à chaque fois l'apôtre Paul s'adresse à une catégorie de personnes, un problème, une vue, une interprétation, une pensée à laquelle certains s'attachent, mais qui n'apporte aucun changement. Hein. C'est donc il dit tout ça, ça n'apporte pas le salut. Et donc là, dans le chapitre 2, donc au verset 25 jusqu'à la fin du chapitre, là il va soulever encore une autre question. Et c'est en particulier les Juifs qui étaient attachés à ce signe dans leur corps et qui en faisaient un grand cas. Et Paul leur dit, écoutez, vous en faites trop parce que la circoncision ne décide pas de tout. Donc nous allons lire Romains chapitre 2 et à partir du verset 25. Donc il dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas ? Toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et donc, il y a tout un argument là, mais la pensée clé, hein, c'est ce que nous lisons dans les versets 29. Dans le verset 29, il dit, mais le juif, donc celui qui est vraiment à Dieu, eh bien, ce n'est pas celui qui a, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, c'est là où il met l'intérieur. Et puis après, il parle de la circoncision, celle du cœur. Donc encore une fois, l'être intérieur. Et puis il dit, celui-là, lorsqu'il louera Dieu, la louange de ce juif, de celui-là, sa louange, eh bien, elle ne viendra pas de l'homme, mais elle viendra de Dieu. Hein, c'est autre chose. Et donc, il est en train de mettre un contraste là. Il dit, bon, il y a toute cette catégorie de personnes qui en font un grand cas de cela, de cette circoncision, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre intérieure dans l'homme qui importe. Donc là, cette thèse que Paul développe ici, eh ben, elle touche le juif de l'époque de très près. Et Paul était bien placé pour savoir ce que eux pensaient, parce qu'il en avait été un. Hein, il avait été membre de la secte la plus stricte dans le judaïsme, il avait été là, il avait été jusqu'au bout, il avait essayé d'être le meilleur, et jusqu'au point où il est même devenu le persécuteur de l'Église, tellement il voulait bien faire les choses. Et donc il savait de quoi il parlait, il savait dans quel sens et comment on voyait tout cela. Et il avait une vue de l'intérieur. Et en fait, les Juifs de l'époque, tellement ils en faisaient un cas, c'est que pour eux, le monde était divisé en deux catégories de personnes, les circoncis et les incirconcis. Comme si ça, c'était la chose qui faisait toute la différence. Il y a les bons, les mauvais. Il y a les circoncis et les incirconcis. Et ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. C'était presque un peu cette idée-là. Et l'apôtre Paul dit non, ce n'est pas ça. Bon, après, ce qu'on trouve aussi... parce que, bon, on parle de quelque chose qui est dans le passé, mais l'équivalent de nos jours, ça peut être cette idée du baptême d'enfant. J'ai été baptisé en tant qu'enfant, donc tout est bon, tout est réglé, tout va bien. Et Et on peut avoir cette même attitude, et parfois on a des personnes qui parlent de cette manière, ils misent tout là-dessus, comme si ça faisait toute la différence. Mais je rappelle encore une fois ces derniers versets qu'on a lus, en fait ce n'est pas ce qui est arrivé quand j'étais enfant, mais c'est ce qui, pas plus que pour le juif quand il a été circoncis le huitième jour, mais c'est ce, l'œuvre qui est dans mon cœur, et le changement dans mon cœur qui fait la différence. Donc, et puis, bon, laissez-moi dire en passant que ce thème de la circoncision du cœur, eh bien, c'est pas quelque chose que Paul a inventé. Hein. En fait, c'est un thème qui était déjà dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 16, il nous dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez pas ou ne raidirez pas votre cou. Hein, vous n'allez pas résister. » Déjà, donc dans le Deutéronome, donc 40 ans après le désert, là, Moïse leur dit, écoutez, n'oubliez pas que le plus important, c'est la circoncision du cœur, c'est cette l'œuvre qui est faite dans le cœur. Et puis, beaucoup plus tard, le prophète Ézéchiel dira, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, donc dans le chapitre 44, verset 9, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans le sanctuaire. Donc il parle, c'est l'expression, elle est déjà là dans l'Ancien Testament, et l'apôtre Paul ne fait que le récupérer et le rappeler ce qui était déjà dit. Hein, donc, parce que des fois il y a cette idée qui court que le christianisme moderne, le christianisme que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose que l'apôtre Paul a inventé, et certains le rejettent, mais non. C'est bâti sur l'Ancien Testament, hein, c'est fidèle, et combien de fois l'apôtre Paul y fait référence à l'Ancien Testament, et donc ce n'est pas une nouvelle voie, c'est le développement de celle qui existait déjà. Donc pour un peu comprendre l'origine de cette idée-là, on repart sur Abraham, c'est à l'âge de 99 ans que Abraham, eh bien, Dieu lui parle, et Dieu lui propose une alliance. Une alliance, c'est un engagement, hein, c'est un contrat. Et donc, dès le chapitre 17 de Genèse, Dieu propose une alliance à Abraham. Ismaël, son premier fils, a 13 ans. Hein, nous voyons ça dans le verset 25 du Genèse 17. Et là, Dieu propose comme signe de l'alliance, un rappel qu'il y a une alliance, il propose justement la circoncision, un signe physique qui marquera tous les descendants d'Abraham, tous les mâles, et pas seulement ceux qui sont nés dans la famille, mais tous ceux qui sont, il nous dit, il emploie l'expression, tous ceux qui sont acquis, c'est-à-dire tous ceux qui se joignent à lui, eh bien, tous rentrent dans cette alliance, et donc ce n'est pas la première chose que je peux dire, c'était pas basé sur la foi. Hein. C'était tu es né d'Abraham ou tu fais partie de ce qui possède du monde qui englobe, eh bien tu es sous cette alliance, et donc il y avait ce signe. Donc c'est première chose, c'est que c'était pas un acte de foi quand quelqu'un se faisait circoncire. Et c'est sous cette alliance nouvelle que Dieu va changer le nom. Il s'appelait avant Abraham, il va devenir Abraham. Et Sarah s'appelait Sarai, et elle deviendra Sarah. Hein, donc c'est tout dans cette alliance-là. Hein, donc il y a vraiment un Dieu établi, il prend vraiment au sérieux cette alliance. Et c'est aussi pendant dans cette alliance qu'il promettra, qu'il dira à Sarah, tu auras un fils, toi-même tu auras un fils. Hein, et tu l'appelleras Isaac. Et c'est de lui que viendra, hein, c'est le fils promis, et c'est de lui, de sa descendance, que viendra le Sauveur. Tout ça est rentré dans cette alliance-là. Dieu, il a dit, je m'engage. Et heureusement qu'il y a eu cette alliance, parce que ça permet de préserver le peuple d'Israël, de le garder jusqu'à Jésus, pour que nous ayons Jésus. Parce que si c'était arrivé à ce peuple, ce qui arrive à beaucoup de familles, c'est que ça se disperse, ça se mélange, et puis on perd les traces. Là, il fallait la garder. Et dans un sens, ce signe de la circoncision, eh ben, c'est peut-être, on pourrait dire, même encore aujourd'hui, c'est ce qui permet à ce peuple juif de préserver son identité, même jusqu'à notre jour. Hein. Donc, mais bon, eux, tellement c'était une alliance avec Dieu, tellement c'était un privilège, ben, et après, eux, ils ont été, au lieu de voir ça comme un engagement, et eux, ils avaient un devoir envers Dieu, ils ont commencé à penser, ben, nous, on est meilleurs que les autres, et donc il y a eux, et puis il y a nous. Et bon, ça peut arriver même de nos jours, hein, on peut avoir ce sentiment, oui, ben, il y a les autres religions, et puis il y a la nôtre. Mais bon, la question, ce n'est pas une question de s'il y a eux et il y a nous, c'est une question de, hein, on le dira souvent ce matin, c'est une question de qui est Jésus-Christ pour moi. Hein, c'est ça la différence. Et ce n'est pas la religion à laquelle j'appartiens. Et c'était arrivé à un tel point qu'on trouve même dans Actes chapitre 15 qu'il y a certains qui ont dit, tellement ils trouvaient ça indispensable au salut, qu'ils voulaient que les païens qui se convertissaient à Christ se fassent circoncire, parce que tout est là. Et ce qui a provoqué un concile à Jérusalem, tous les apôtres se sont rassemblés, et tous les responsables, et ils ont discuté de la question, et ils ont décidé, non, dans le christianisme, la circoncision n'a aucun sens là-dedans. Jésus a inauguré une autre alliance, hein, dans la chambre haute, hein, quand il a servi le pain et le vin, il a dit, ceci est une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Hein, donc, nous sommes sous une nouvelle alliance, et le signe, c'est Christ, hein, c'est lui l'élément, c'est plus celui, non, donc nous ne sommes pas, notre lien avec Abraham n'est que spirituel, hein, mais pas physique. Et même l'apôtre Paul, et on le fera quand on arrive à Romains chapitre 4, mais l'apôtre Paul en fera un cas, il dira, mais Abraham, lorsqu'il a été déclaré juste, hein, dans Romains 4, 10, quand il a été déclaré juste, il n'est pas circoncis, c'était au chapitre 15 de Genèse. Donc c'est plus tard qu'il y a eu cette alliance. Donc il était incirconcis quand Dieu l'a déclaré juste. Donc la circoncision n'a rien à faire, et il en fera tout un argument. Je le mentionne seulement en passant là. Mais voilà, ne faisons pas, donnons pas une valeur à une chose qui n'est pas là. Hein. Et dans de nos jours, comme j'ai dit, le baptême d'enfant n'est pas le signe du christianisme, n'est pas la marque. Hein. C'est une pratique, c'est sûr, mais c'est pas le signe de la chose, donc n'en faisant pas ce qu'elle n'est pas. Et puis, si on voulait donner l'équivalence, hein, comme certaines églises le font, hein, et certains milieux le font, que, en fait, le baptême chrétien, c'est l'équivalent de la circoncision dans l'Ancien Testament. Hein, mais alors, il y a un problème, parce que là, ça veut dire que la circoncision n'avait aucune valeur salutaire. Donc ça veut dire que ben, le baptême, il n'a rien à faire avec le salut non plus. Et donc on ne peut pas en faire un sacrement. Et on ne peut pas lui donner une valeur. Et on ne peut pas le faire valoir pour le salut. Parce que, pas plus que la circoncision. Plein de juifs de l'Ancien Testament sont morts perdus, il nous dit dans l'Épître aux Romains. 100 fois. Hein, peut-être ils étaient circoncis, mais ils n'ont pas cru. Et ben, ils sont perdus. Hein, donc, ne donnons pas de sens à quelque chose qui n'est pas là. Hein. Et c'est important pour nous, même de nos jours, on est des humains, on a la même tendance que les Juifs, on n'est pas là pour les accuser, on est là pour essayer de mieux se comprendre. Et donc, et c'est pour ça que Paul écrit dans ce verset 25, il dit « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Et si on parlait de baptême d'enfants, il y a des milliers de gens qui ont été baptisés enfants dans toutes sortes d'églises, il dit, ben, si on employait le même mot, dit ton baptême est utile, mais si tu mets en pratique l'enseignement de Christ, mais si tu le transgresses, si tu ne le mets pas en pratique, ben, ton baptême, il ne vaut plus rien. Hein, c'est un peu, et on le voit, hein, on voit plein de gens qui ont été baptisés quelque part, et leur vie n'est pas meilleure que d'autres qui n'ont jamais connu Jésus-Christ. Donc, comprenons les choses, les valeurs, et restez avec la valeur des choses. Donc, le juif ne peut pas faire valoir sa circoncision comme un moyen de salut pour Dieu et prétendre au salut, parce qu'il a enfreint la loi de Moïse. Hein. 1 Corinthiens 7, verset 19, dit « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Hein, » C'est ça, c'est surtout cela. Hein, donc, c'est pas ce que des rites que j'ai pu subir, qu'on m'a imposé, que même j'aurais choisi, mais c'est question de cette vie. Hein, c'est ça l'importance. Et Paul pousse l'argument encore plus loin pour dire que même le païen qui n'est pas circoncis, mais s'il garde la loi, dans un sens, il te condamne. Et lui, il va être plus disposé. Hein, et je propose l'exemple de Corneille. Corneille, dans Acte 10, c'était un païen, mais qui avait entendu parler par les juifs qui l'entouraient, il avait entendu parler de Dieu, et il avait commencé à l'adorer, à prier, comme il pouvait, comme il savait. Eh bien, c'est lui qui a eu la visite de l'ange, qui lui a parlé, et qui lui a... Il ne pouvait pas lui dire, écoute, je vois tes prières et ta sincérité, et donc considère-toi sauvé. Mais il a dit, mais je vais te faire connaître quelqu'un qui pourra te dire... parler de Jésus, et en apprenant Jésus, en connaissant Jésus, en sachant ce qu'il a fait, eh bien, tu pourras accéder au salut. Hein, quelqu'un, peu importe comment, et je viens de lire ce matin, c'est que, en Irak, et là où les villes qui étaient dominées par Daesh, eh bien, plein de gens sont en train de venir à Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, ce qu'on a vu, ça, on ne le veut pas. Et ils sont en train de... c'est des gens qui ont vécu et qui ont... Ils ont leur passé. Mais ils se disent, non, on veut venir à autre chose, à Jésus-Christ. Et donc, dans un sens, eux, en venant à Christ et en ayant un cœur transformé, ils condamnent ceux qui ont la Bible et l'Évangile, l'Église devant eux tout le temps et qui ne font rien. Hein, qui ne pratiquent rien. Il dit, eux te condamnent parce que au moins ils mettent en pratique, ils placent leur confiance en ce qu'ils entendent. Il dira en Colossiens chapitre Galates 5, 6, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Il dit c'est la foi agissante par l'amour. Et il parle dans ce passage, lorsqu'on lit dans Galates 5, il dit justement, garder la loi, c'est quoi ? Il dit, le commandement qui englobe tout, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu ne l'as pas fait, tout signe, tout rituel auquel tu peux prétendre, si tu n'as pas aimé ton prochain comme toi-même, et aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est comme s'il n'y avait rien. Hein? Donc, tandis que lorsque je comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté mon péché, et lorsque je le reçois par la foi, et puis qu'il y a une œuvre régénératrice qui se met en œuvre en moi, là, ça change tout. Hein? Et peu importe ce qu'a été le passé, Moïse, c'était un homme qui avait déjà, il avait commis le meurtre, hein, il avait tué un Égyptien juste pour une histoire de bagarre. Mais c'est un homme qui a placé foi. Dieu peut pardonner n'importe quel passé. L'apôtre Paul avait été un homme violent qui avait tué, mis les gens en prison. Il a dit, je suis plus grand des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église. Eh bien, Dieu a pu le transformer. Donc c'est pas, sachons que, je rappelle ça toujours, c'est cette relation, cette foi en Jésus-Christ qui fait toute la différence. Ce que j'ai eu ce que je n'ai pas eu, peu importe, c'est ce que j'ai maintenant en Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 2, versets 11 et 10 dit « C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Il dit donc, ce qui fait toute la différence, c'est ce que tu as témoigné à ton baptême, c'est que tu as été, toi, la mort au passé et ressuscité pour Christ. Hein, et la même force qu'il a ressuscité, lui, c'est celle qui agit en toi. Hein, donc, c'est là l'œuvre de Dieu, et c'est ça qui fait toute la différence. Et l'apôtre Paul est en train de dire à ces juifs, il dit, écoutez, vous appuyez sur quelque chose qui ne fera rien, hein, si vous êtes en train de perdre votre temps là. C'est pas que c'est mal, mais ça ne fera pas la différence. Venez à Jésus-Christ. Et on dit, vous savez, on dit bien en France, on dit bien, l'habit ne fait pas le moine. Hein, donc c'est pas le rituel que j'ai pu subir, c'est pas le langage que j'ai, c'est pas l'appartenance qui fait la différence. Hein. Et puis de nos jours, alors on sait ce que c'est que l'habit ne fait pas le moine. Et Jésus dit aux pharisiens de son époque, hein, donc les meilleurs des juifs, ceux qui gardaient la loi jusqu'à la lettre, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Il dit, commence par l'intérieur. Il dit, tu travailles tout l'extérieur, l'apparence, mais travaille l'intérieur. Et il leur dira, bon, c'était pas forcément gentil, mais il disait, vous êtes des sépulcres blanchis. Dehors, c'est tout blanc, c'est joli, c'est propre, mais à l'intérieur, c'est l'ossement et la pourriture. C'était pas flatteur, mais en fait, il dit, mais travaillez l'intérieur, travaillez, et puis après, que ça transparaisse dans la vie. Vous savez, je prends, on parle dans l'Ancien Testament, un exemple, vous vous souvenez quand Samuel est envoyé par Dieu pour oindre quelqu'un en remplacement du roi Saül. Le roi Saül n'a pas été fidèle, au début il était bien disposé, Samuel dira à Saül, il dit, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé. Mais maintenant que tu es grand, tes yeux, il t'enlève. Et donc Dieu envoie Samuel et dit, écoute, je vais t'envoyer au moindre quelqu'un en remplacement de Saül, le roi Saül. Et donc 1 Samuel chapitre 16, là nous avons le récit, Samuel arrive à Bethléem et il arrive chez Isaïe et lui dit, écoute, j'ai besoin de voir tes fils. Et alors, bien sûr, Isaïe, ben, il commence par l'aîné, hein, le plus grand, et l'aîné arrive, un grand, beau, et puis Samuel le regarde et dit, ah, ça doit être lui. Et Dieu lui dit, Samuel, non, c'est pas lui. Toi, tu regardes l'apparence, mais c'est pas là où je regarde, moi. Hein, il dit même, voilà comment il le dit, il dit, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dit, quand Dieu regarde à quelqu'un, il le mesure, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Et c'est là où il mesure l'homme. Et donc, là, pour le récit, hein, donc il y a l'aîné qui passe, puis il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis finalement, il n'y en a plus. Et puis Samuel dit, mais ce sont tous tes fils? Isaïe dit, oh oui, mais j'en ai encore un petit. Bon, il est avec les brebis là-bas. Il dit, amène-le. Et il amène, et Dieu dit, c'est lui. C'est le petit. Vous vous rappelez ce que Goliath avait dit en le voyant? Il a dit, mais bon, vous m'insultez en envoyant celui-là. C'est un petit blond, les yeux bleus, et puis vous prenez pour un chien, venez avec un bâton. Ben, il l'avait méprisé. Mais c'est celui-là que tu avais choisi. Pourquoi? Eh bien, il nous dit dans Actes chapitre 13, verset 22, il dit, parlant de Saül, il dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est ça, il a dit, voilà, là j'ai trouvé un homme qui lui, sera prêt à faire ma volonté. C'est ça que Dieu cherche. Et finalement, nous pouvons... c'est pas une question de faire, d'avoir des talents ou d'avoir un physique ou d'avoir des connaissances et d'avoir fait des études. C'est pas ça que le Seigneur regarde. Il dit, moi je veux un cœur qui est prêt à faire ma volonté. C'est ça que je cherche. Salomon dira dans le Proverbe 23-26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et c'est ça que Dieu veut. Hein, donc, ne faisons pas valoir des choses qui ne vont pas valoir chez Dieu. Hein. Ce n'est pas une question que moi, je pense, c'est ce que lui pense de cela. Et essayons de lui présenter ce qu'il cherche. Et l'importance de l'homme intérieur est soulignée par une application que fait l'apôtre Pierre. Il fait une application aux vêtements des sœurs. Hein, c'est une application, ce n'est pas le seul sens. Dans 1 Pierre chapitre 3, il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le corps, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Il dit pas que c'est mal l'extérieur, il dit « Mais travaille l'intérieur, travaille l'homme intérieur. » Il dit ça aux dames, mais il dit la même chose aux hommes. Hein. C'est le même, le principe était appliqué là, mais on peut l'appliquer aux hommes. Il dit c'est l'homme intérieur qui importe. C'est pas ce que les gens voient et ce qu'ils approuvent. Et de nos jours, on est dans un monde où vraiment on travaille beaucoup l'extérieur. On a des magasins spécialisés dans l'apparence. Et on fait de la chirurgie, on fait chirurgie esthétique, on a des choses pour couvrir, des maquillages, on a tout pour travailler l'apparence. Mais ces gens ne sont pas forcément heureux. Hein, et le Seigneur, je ne dis pas qu'il faut se rendre moche ou pas être beau. Le Seigneur aime la beauté, il est le créateur de la beauté. Mais il a dit, ne te confie pas sur ça. Ça ne suffit pas. Tout seul, ça ne suffit pas. C'est bien, c'est agréable, mais travaille surtout l'homme intérieur. Surtout l'homme intérieur. Parce que sans ça, ben, tu n'as rien. Par exemple, Paul dira, dans son ministère, il parlera de l'homme intérieur et dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'ordre, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se nous renouvelle de jour en jour. Il parle de la persécution et tout ce que son corps subit et la fatigue avec les années de ministère. L'apôtre Paul, certainement, et c'est un homme qui a vieilli avant son temps, a vu son ministère et tout ce qu'il a subi. Mais il a dit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Il a dit, l'extérieur, ça se détériore. Mais l'intérieur se renouvelle. Et c'est ça que nous voulons rechercher. Et vous savez, avec toutes les photos et ce qu'on nous montre à la télé, c'est toujours les gens les plus beaux, les plus parfaits. Il y a l'idéal, c'est la taille idéale et tout. On fait un grand cas. Mais quand vous souffrez dans votre corps, quand vous souffrez et puis vous avez besoin d'une consolation, ce n'est pas ces gens-là qui vont vous aider. C'est quelqu'un qui a un cœur qui va vous aider. C'est là ce que vous allez chercher. C'est quelqu'un qui sait comprendre. C'est quelqu'un qui sait pas seulement empathir, mais compatir. Hein, c'est quelqu'un qui saura partager. C'est ça que vous allez chercher. C'est pas pour les photos, on veut les gens beaux. Mais quand on souffre, On veut quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur et qui va comprendre et qui va savoir. Quand il y a des moments où c'est la beauté, ça marche, ça passe, mais il y a un moment où il faut quelqu'un qui dit la vérité. Hein. On veut la réalité. Et là, ce qu'en fait le Seigneur propose, c'est cette régénération. Il ne parle pas d'un mode de vie. On peut avoir ce qui arrive, et je peux en parler parce que moi-même, j'ai grandi et exposé à la parole pendant des années. Hein. Je crois à 5 jours, j'étais déjà à l'église. Mes doigts suffisent pour les dimanches que j'ai raté de l'église hein, dans ma vie. Mais ça, je ne peux pas le faire valoir devant Dieu et dire, écoute, j'ai toujours été à l'église, j'ai entendu la parole, j'étais toujours dans les églises où prêche la parole de Dieu. Et il dit, et alors ? Est-ce que ton cœur a été touché par la parole ? Est-ce que tu as cru ? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ ? Est-ce qu'il y a une nature nouvelle qui se développe en toi ? Il dit, c'est ça qui m'intéresse. Après ça paraîtra. Hein, on ne méprise pas le corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit, donc on ne le méprise pas. Mais ce qu'il faut, c'est quelque chose dans le temple. Hein, sinon, il faut... avoir un beau bâtiment où il n'y a pas de Dieu, et alors on appelle ça un temple, mais il n'y a pas de Dieu, c'est pas la peine. Mais si, dans ce temple, il y a un Dieu puissant, alors là, ça change tout. Hein, donc, nous voulons vraiment valoriser cela. Et donc, Jésus dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu la ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. Et il a dit, c'est par là qu'on commence. Après, tout le reste, une fois que l'intérieur est réglé, vous savez, c'est la paix, c'est dedans. Hein. La confiance, c'est dedans. Les choses les plus, ce que l'être humain désire le plus, c'est quelque chose qui appartient à l'intérieur. Et donc, que le Seigneur nous aide et commençons par Jésus-Christ qui nous donne cette vie nouvelle et puis après cette régénération, cette nouvelle naissance qui agit, qui transforme et puis après qui transparaît dans notre vie, ce sera autre chose. Et puis alors là, le visage, il est beau autrement. Et donc, On n'est pas du genre certains milieux. Non, il faut jamais pas beau, mais il faut être moche. On travaille que l'intérieur. Non. Mais d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur à la gloire du Seigneur. Et donc que le Seigneur nous aide. Il dit oui. Il commence le verset 25. Il dit la circoncision, c'est utile. Mais il dit la louange de ce juif qui est vraiment qui a le cœur circoncis, eh bien c'est de sa louange vient de Dieu. Ça c'est une vraie et celle que le Saint-Esprit en nous permet d'exprimer, celle-là elle va jusqu'à Dieu. Hein, tandis que l'autre, il y a que les autres qui l'entendent. Donc que le Seigneur nous aide à vraiment mettre l'importance là où Dieu place l'importance, hein, là où c'est qu'on puisse stabiloter les pensées que Dieu a déjà stabilotées dans son livre. Hein. Et c'est ça que je veux. C'est pas ce qui me plaît, c'est ce que lui plaît. Hein. Et c'est pour ça qu'il avait choisi David. Il a dit, c'est quelqu'un qui va garder ma volonté, va faire ma volonté. Il dit, c'est pour ça que je l'ai choisi. Oui, il est petit, oui, les cheveux blonds, il a l'air, tout ce qu'il fait, c'est garder les brebis. Ah oui, mais il y a une relation. Il y a une relation, et c'est ça que Dieu veut. Oh, que le Seigneur nous aide à être fidèles à lui. Et donc, nous voulons passer deux moments, un moment dans la prière. Et déjà, une première chose, Seigneur, écoute, donne-moi de vraiment choisir les bonnes priorités dans ma vie spirituelle. Et puis afin que le reste, que tu puisses faire le reste de l'œuvre. Et donc quelques moments de silence, et afin que le Seigneur puisse nous aider Et puis après, je prierai.